Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Il faut chasser le M23 dans un bref délai et permettre aux personnes déplacées de regagner leurs entités. C'est la condition exprimée par la société civile au gouverneur du Nord Kivu qui séjourne dans le Rutshuru. Le lieutenant général Constant Dima est allé calmer les esprits surchauffés par les exactions du M23. Il a réussi à faire annuler la marche prévue aujourd'hui à cet effet. Ebola en RDC. L'OMS recommande deux traitements pour réduire la mortalité liée à cette maladie. Une première depuis que Ebola existe. En effet, un malade suspecté atteint d'Ebola au Nord Kivu est décédé le 15 août dernier, a rapporté le ministre de la Santé publique au dernier Conseil des ministres. Et puis, l'invité de ce matin, Daniel Asselo Kito, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il s'exprime sur les efforts du gouvernement pour mettre fin au conflit entre les Teke et les Yaka à Kwamout dans le Maïndombe. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, a effectué une visite à Rutshuru hier. Sur place, il a échangé avec les forces vives et les déplacés qui ont fui la guerre du M23. C'était dans le but de calmer les mécontentements exprimés par les forces vives pour dénoncer l'insécurité, la guerre et l'occupation de ces entités par ces rebelles. À l'issue d'un dialogue avec toutes les couches représentées, le gouverneur du Nord Kivu a réussi à faire annuler la marche pacifique qui était prévue pour ce lundi. À l'initiative de la société civile et des mouvements de pression, les forces vives ont accepté l'appel du gouverneur, mais à condition qu'une solution soit trouvée rapidement, c'est notamment celle de chasser le M23 dans un bref délai et permettre aux populations déplacées de regagner leurs entités, a précisé la société civile. On écoute le gouverneur Constant Dima.
Aussitôt de mon séjour à Butembo, j'avais appris que nos compatriotes de Rutshuru se mettaient en manifestation aussi. Ils voulaient manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Et ce n'est pas facile, c'est pourquoi je viens dire à mes compatriotes de Rutshuru de rester calme et surtout à la retenue. La marche est annulée, nous sommes adressés à nos compatriotes et ils nous ont compris. J'ai entendu dans la salle le slogan de ne pas laisser un centimètre de notre territoire à l'ennemi. Mais c'est vrai. Qui est ce Congolais aujourd'hui, un patriote, laisser son centimètre de terrain à l'ennemi? Ça, même pas aujourd'hui, même non, Zaïre, fils, ne nous pardonneront pas.
Notez qu'à l'issue de ce dialogue avec les leaders locaux, le gouverneur s'est exprimé devant une foule composée entre autres des déplacés portant des banderoles avec des messages pour dénoncer la souffrance qu'ils traversent dans leur lieu de refuge par manque d'assistance du gouvernement et exiger le retour dans leur village d'origine. Pendant ce temps, un calme relatif a été signalé sur la ligne de front samedi et dimanche, a affirmé le porte-parole des opérations Sokola. Profitant de la présence du gouverneur du Nord Kivu à Rutshuru, la société civile de ce territoire, en particulier les déplacés qui ont fui les affrontements entre les M23 et les FARDC, demande à ce que l'armée fasse tout pour bouter dehors les rebelles du M23 afin que les habitants regagnent leur village et vaquer à leurs occupations. Dans son message au gouverneur, Constant Dima, la société civile a indiqué que la population est fatiguée de la léthargie observée, mais surtout la position défensive des FARDC sur terrain, ce qui donne l'impression que la population est abandonnée. On écoute Samson Rukira, secrétaire général de la société civile de Rutshuru.
Alors que le peuple attend impatiemment que le FARDC fasse des offensives contre ses hors-la-loi et reconquérir son territoire en fait que cette population regagne leurs milieux respectifs, les terroristes du M23 renforcent jour le jour leurs troupes et continuent à prendre contrôle de ces villages assiégés. Eu égard à cette situation macabre due au silence du gouvernement congolais, la coordination de la société civile Force Vive de Rutshuru, reconnaissant la détermination et les sacrifices de nos militaires FARDC, la société civile Force Vive recommande que le gouvernement dote aux FARDC les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés.
Samson Rukira n'a pas manqué d'évoquer les dégâts humains et matériels enregistrés depuis les attaques du M23 dans les groupements des Jomba, Bouéza, Rugari et Kisigari. Ce sont notamment des dizaines de personnes tuées, des femmes violées, des bombardements des édifices publics, des écoles, centres de santé et bien d'autres. Conflit entre les Teke et les Akwamut dans la province du Maïndombe. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'exprime en exclusivité sur Radio Kapi à ce sujet. Daniel Asselo rejette les allégations selon lesquelles le gouvernement central est resté silencieux face à cette situation. Il annonce qu'il y a 2 semaines, il a pris toutes les précautions afin que l'ensemble du gouvernement soit mis au courant de ce qui se passe dans le territoire de Kwamut. Il a indiqué que lors du dernier conseil des ministres, il est revenu sur cette question et des instructions ont été données par le chef de l'État pour qu'une délégation gouvernementale se rende dès le début de cette semaine dans cette province pour mettre fin à cette situation. On écoute le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, joint par Guy Maté.
Le gouvernement de la République a ses subdivisions ou ses branches. Il y a le gouvernement provincial qui est là, il y a tous les services de l'État qui sont là. Il n'est pas dit que lorsque un problème se pose quelque part, il faut que ce soit nécessairement le président de la République, le premier ministre qui agisse. Nous avons nos services, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les services de renseignement et de sécurité, mais qui vous fait croire qu'il y a du silence? Au niveau des institutions de la province et au niveau des autres services de l'État, le travail est en train de se faire pour que tout ce qui serait à la base de ces affrontements-là cesse, parce qu'il s'agit d'un conflit tribalo-ethnique. Le plus important pour le gouvernement de la République, c'est de savoir comment rapprocher ses filles et fils qui seraient en train de s'entretuer là-bas. Ce n'est pas intéressant.
Elle a été désignée secrétaire exécutive adjointe de la SADC pour l'intégration régionale lors du dernier sommet tenu la semaine dernière à Kinshasa. Angèle Makombo, ancienne fonctionnaire des Nations Unies, a été la seule femme candidate à la présidentielle de 2011, membre du Conseil économique et social et présidente du parti politique LIDEC. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, elle explique ses nouvelles fonctions. Angèle Makombo a été jointe par Alain Rung.
C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ces fonctions avec un grand sens de responsabilité. Je donnerai le meilleur de moi-même. Alors, ça consiste en quoi être secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale de la SADC? La SADC a une vision qu'on appelle Vision 2050 qui est de faire de la région de la SADC une région industrialisée qui serait composée donc de pays à revenus intermédiaires ou même pays élevés et où les peuples de la SADC vont vivre dans la justice, les jeunes auront de l'emploi, etc. Et c'est notre travail au secrétariat de mettre en œuvre, d'exécuter cette vision. Et cette vision se base sur un plan indicatif régional du développement stratégique où il y a différentes stratégies et l'accent est vraiment mis sur le développement des infrastructures. C'est un travail d'exécution, c'est un travail de suivi, c'est un travail de coordination.
Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des ministres vendredi de la situation qui prévaut au Nord Kivu concernant le décès le 15 août dernier d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola. Docteur Jean-Jacques Mbungani a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises. C'est notamment l'investigation approfondie par l'équipe cadre de la zone de santé de Beni, dont le listage des contacts, la décontamination à l'hôpital général et dans la communauté. Entre-temps, l'OMS annonce que 2 traitements existants réduisent considérablement la mortalité liée à la maladie à virus Ebola. Elle recommande fortement son administration à toutes les personnes qui souffrent de cette fièvre hémorragique. Alain Rung-Mushinj nous en parle.
C'est la première fois que l'OMS fait des recommandations de traitement relatives à Ebola. Dans ses lignes directrices publiées vendredi, l'organisation fait une recommandation forte pour le traitement par MAB-114 ou par REGNEB3 chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola. Elle fait cette même recommandation pour les nouveau-nés dont l'atteinte par la maladie à virus Ebola n'est pas confirmée, âgés de 7 jours ou moins, nés des mères atteintes de maladie à virus Ebola confirmée. armée. Le MAB-114 est un anticorps monoclonal commercialisé sous la marque Ebanga et le REGN-EB3 est un cocktail de trois anticorps monoclonaux. Ces deux traitements ont été approuvés fin 2020 par l'Agence américaine des médicaments et sont déjà utilisés pour traiter des malades d'Ebola. Les patients doivent recevoir les anticorps monoclonaux neutralisants recommandés dès que possible après la confirmation du diagnostic en laboratoire, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Les études ont montré que les deux traitements réduisent considérablement la mortalité liée à Ebola, a indiqué la responsable de l'équipe clinique à l'OMS, Janet Diaz, lors d'un point de presse à Genève.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a aussi précisé que le stock des vaccins contre cette épidémie est disponible dans la province du Nord-Kivu et un plan de riposte est en instance d'exécution en attendant le résultat de séquençage devant permettre de déclarer officiellement l'épidémie d'Ebola dans cette zone de santé et de la classifier. Le gouvernement recommande la prudence à la population de cette partie du pays. Kasaï Oriental débute ce lundi à Mbujimayi de la campagne pour l'obtention des documents de création d'une entreprise ou d'un établissement auprès du guichet unique de création d'entreprise dans un temps record. Cette opération qui se faisait au niveau du tribunal de commerce sera momentanément délocalisée au centre-ville, non loin du gouvernorat de province, pour permettre aux contribuables d'y accéder facilement, affirme le directeur général du guichet unique de création des entreprises. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu à la fin de la semaine dernière, le directeur général du guichet unique a dévoilé la liste des documents ainsi que les frais à payer pour la création d'une entreprise commerciale ou d'un établissement spécialisé. Professeur Amissi Radi, directeur général du guichet unique, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Si c'est une société, quelle que soit la taille, grande société, filiale, je ne sais pas, que sais-je encore, vous n'aurez à payer pour l'obtention du registre de commerce et de crédit immobilier que l'équivalent franc-congolais de $30. Et il faut ajouter à ce montant les modiques frais bancaires puisque vous allez payer ça à la banque, au numéro donc de l'État. Et s'il faut ajouter le numéro d'identification nationale, $40, ça sera donc $70. Alors que lorsqu'il s'agit d'un établissement, et ce sont les établissements qui sont les plus nombreux, vous n'avez à payer que l'équivalent franc congolais de $10. $10 et à Tianana, plus les frais bancaires. Et pour le numéro d'identification nationale, je crois que c'est $30. Et je profite donc de cette opportunité pour inviter tous les opérateurs économiques qui évoluent sans des documents requis par notre législation à pouvoir saisir cette opportunité à partir donc de lundi. L'équipe du guichet unique qui est venue de Kinshasa est dédiée pour les rendre ces grands services-là, de leur faciliter l'obtention de ces documents en un temps record.
Plus que deux semaines nous séparent de la rentrée scolaire en RDC. En Ituri, cependant, les préparatifs de la rentrée scolaire semblent encore timides au marché central de Bunia, ainsi qu'aux différents endroits dans le centre-ville où l'on se procure habituellement les fournitures scolaires. Le marché n'est pas encore en cette période pris d'assaut, comme ce fut le cas pendant la même période les années précédentes, et certains parents semblent ne pas se précipiter à acheter les objets classiques à leurs enfants. Les commerçants expliquent cette situation par la crise monétaire due à l'insécurité qui affecte plusieurs ménages. C'est un reportage signé Ezekiel Mouzalia.
C'est un sentiment de tristesse et d'inquiétude que l'on peut lire sur les visages des vendeurs des objets classiques sur les marchés centrales de Bounia après des trois semaines de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 qui pointe à l'horizon. Abordés, ils affirment que cela est dû à la hausse de prix de certains articles à cause de l'insécurité. Témoignage. Nous achetons un carton de cahiers à $45. Nous mettons une douzaine de cahiers de 32 pages à 5000 francs, des 200 pages à 10 000 francs. Cela constitue un grand problème. On nous dit que la hausse du prix des cahiers est due à l'insécurité. Conscient de la situation, ce parent est venu faire coudre le pantalon de son fils de la 8e année. Il espère peut-être que la situation pourrait s'améliorer avec les efforts que les autorités fournissent pour restaurer la paix dans la province.
La situation n'est pas vraiment très bonne au marché. Peut-être que les choses vont s'améliorer avec les efforts que les autorités fournissent. Nous espérons peut-être que les jours à venir, les choses vont changer.
Signalons que conformément au calendrier scolaire réaménagé, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue le 5 septembre prochain. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toyekola Loyembo Yambo Kanabiso, c'est le thème de l'activité socioculturelle qui a réuni ce week-end une centaine d'enfants de la commune de Kimbansé qui est à Kinshasa. C'est dans le but d'apprendre l'hymne national en Lingala, une initiative de son coordonnateur Moïse Edimo qui prône l'éducation des enfants en langue nationale pour leur propre épanouissement intellectuel, déclare ce dernier. C'est un reportage de Kelly Yoka.
Nous ne sommes pas dans une salle de classe d'une école primaire, mais plutôt dans l'enceinte d'une parcelle à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke. Chaque samedi, des centaines d'enfants sont réunis autour de leur enseignant et coordonnateur de l'ASBL Toyekola pour des activités ludiques en Lingala. Pourquoi le choix de l'hymne national en Lingala? Moïse Edimo Lumbidi explique.
L'enfant comprend la profondeur. Quand on dit télémamoua na Congo, on ne dit pas à quelqu'un d'autre. On dit à toi, l'enfant du Congo, lève-toi et va bâtir ton pays.
Une rencontre appréciée par ses jeunes élèves.
J'ai appris l'hymne national en Lingala. Téléma mwana Congo, téléma mwana Congo.
C'est sous une note patriotique que la rencontre s'est clôturée avec le debout congolais mis en valeur en Lingala.
Actualité internationale. En Somalie, le bilan s'alourdit après une attaque des islamistes Chebab contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Le ministère de la Santé a annoncé hier qu'au moins 21 personnes ont été tuées et 117 blessées dans l'attaque de l'hôtel Hayat. L'attaque a pris fin samedi soir après 30 heures de combat entre les Chebab et les forces de sécurité somaliennes.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, il s'exprime sur les efforts du gouvernement pour mettre fin au conflit entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe. Daniel Asselo s'entretient avec Guy Matetsongo.
Bonjour Monsieur le vice-premier ministre Daniel Asselo.
Bonjour Monsieur Guy.
Les conflits entre Teke et Yaka dans le Kwamout entrent dans sa quatrième semaine et selon les sources de la société civile, ce conflit a déjà causé une cinquantaine de morts. Le gouvernement central semble avoir abandonné les dossiers entre les mains des autorités provinciales qui à leur tour semblent être débordées par l'ampleur du problème. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence du gouvernement central face à cette situation?
Je présente les condoléances les plus attristées du gouvernement à toute la population de Maïndombe à l'occasion de ces enfants qui ont effectivement créé des morts. Mais je m'insurge contre les 10 membres de la société civile qui osent vous faire tel bilan. Je ne sais pas si ces membres de la société civile veulent quoi ou est-ce qu'on a tué 50 personnes. Nous regrettons qu'il y ait des morts, mais il ne faut pas qu'on puisse manipuler l'opinion parce que les Congolais sont en train de mourir par-ci par-là du fait de l'agression que nous connaissons à l'est du pays et on n'a pas besoin qu'on puisse monter la population dans un autre coin de la République en donnant de tels chiffres. Il n'y a pas de silence. Ça faisait plus de 2 semaines lorsque les informations ont été mises à notre disposition. Nous avons effectivement, moi, comme ministre de l'Intérieur, pris des précautions pour que l'ensemble du gouvernement soit mis au courant de ce qui était en train de se passer à Maïndombe et plus particulièrement dans les territoires de Kwamout. Le gouvernement de la République a ses subdivisions ou ses branches. Il y a le gouvernement provincial qui est là, il y a tous les services de l'État qui sont là. Il n'est pas dit que lorsque un problème se pose quelque part, il faut que ce soit nécessairement le président de la République, le premier ministre qui agisse. Nous avons nos services, mais qui vous fait croire qu'il y a du silence? Le tout dernier conseil des ministres, je suis revenu sur cette question et au moment où je vous parle, parce que le premier ministre a eu des instructions à ce sujet du chef de l'État, tout est en train d'être fait et une forte délégation du gouvernement va se rendre à Kwamout. Et au niveau des institutions de la province et au niveau des autres services de l'État, le travail est en train de se faire pour que tout ce qui est ou qui serait à la base de ces affrontements-là cesse. Parce qu'il s'agit d'un conflit tribalo-ethnique, le plus important pour le gouvernement de la République, c'est de savoir comment rapprocher ses filles et fils
qui seraient en train de s'entretuer là-bas, ce n'est pas intéressant.
Face aux dégâts humains et matériels que cette situation a provoqué et continue de provoquer, vous n'envisagez pas d'initier des enquêtes pour que d'un côté, les présumés auteurs répondent devant la justice et de l'autre, les victimes puissent espérer obtenir réparation?
Je vous ai dit que nous sommes en train de nous rendre là-bas, constater ce qui est arrivé au niveau de notre population, présenter les condoléances du gouvernement et tous ceux qui auraient été à l'origine de cette situation-là ou qui se sont impliqués de manière explicite à pouvoir faire que cela arrive, seront punis. C'est de droit.
Vous avez la sécurité intérieure dans vos attributions. Quel est le message d'apaisement que vous pouvez lancer pour faire baisser la tension entre ces deux ethnies et aussi un message d'espoir à l'endroit des victimes de ces conflits?
C'est de demander à nos deux groupes ethnico-tribaux, les Yaka et les Tende, de se rappeler qu'il y a des centaines d'années qu'ils vivaient ensemble et qu'il n'y a pas de raison que pour des petites raisons de poche de certaines personnes, que pour des raisons, des ambitions de certains politiques, que ces deux peuples qui ont toujours vécu ensemble viennent connaître de telles situations jusqu'à se faire tuer. C'est pas possible. Ils doivent prendre cette conscience-là et le gouvernement de la République vient à leur côté pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables par rapport aux rapports qu'ils ont toujours entretenus.
Monsieur le vice-premier ministre Daniel Asselo, merci.
Merci beaucoup, monsieur Guy, monsieur à Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.